long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Ceux qui papillonnent sur la toile connaissent bien le nom de Mohamed Bajrafil. Son blog d'imam à Ivry-sur-Seine en banlieue attire de nombreux clics. Né aux Comores en 78, je me suis dit une seconde, aïe aïe aïe, est-ce qu'on aurait affaire là à un imam sérieux ou à un imam des caves? Et puis en me plongeant dans sa biographie, je découvre que Mohamed Bajrafil a grandi profondément dans l'apprentissage, l'amour du Coran et la poésie liturgique sous l'œil d'un père très religieux. Aujourd'hui docteur en linguistique, chargé de cours à l'université Paris 12, cet imam de 37 ans, théologien et universitaire, s'inquiète de voir pris en étau son bel islam entre les islamistes d'un côté et les islamophobes de l'autre. Il publie Islam de France l'an 1, il est temps d'entrer au 21e siècle et cela paraît aux éditions Plein Jour. Bonjour Mohamed Bajrafil.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes un petit peu conscient que votre titre peut faire peur à certains lecteurs qui peuvent se dire « Ouh là là, ça y est, la France, cet officiel va être islamisé ».
Oui, et pas seulement qu'à eux d'ailleurs. Hein. C'est que d'un côté, on a ceux qui pensent que parler d'islam de France renverrait automatiquement à un travestissement de l'islam véritable, et de l'autre, ceux qui vont bien entendu être choqués par le fait qu'ils vont se dire que finalement l'islam va envahir la France, ce qu'on entend d'ailleurs depuis un petit moment ici et là.
Et en fait, on va le découvrir, c'est plutôt un livre de réconciliation sur lequel on reviendra tout à l'heure, mais on aimerait d'abord en savoir plus sur la source première de votre credo. Votre histoire à vous, Mohamed, commence dans l'archipel des Comores, pas loin de la capitale, Moroni.
Ibise ki ka dem seni aso Tuko fonyewa.
Pouvez-vous me décrire la maison de votre enfance?
Décrire la maison de mon enfance, j'en ai eu deux. La première était en paille. Il n'y avait pas d'électricité, mais cette période de sans électricité, je m'en souviens pas très très bien, parce que je devais avoir 5 ans. Quand on a eu de l'électricité, c'est en 84. Ça, je m'en souviens très bien, quand mon papa est rentré du pèlerinage. Et ensuite, petit à petit, mon papa va construire une maison en briques, à la sueur de son front, comme on dit.
Vous avez le souvenir tatoué au corps, je dirais, de cette ville dans laquelle vous êtes, vous avez grandi, je ne sais pas exactement, Tsidjé, qui ressemblait à quoi?
Alors Tsidjé, c'est une des plus grandes villes des Comores, peut-être qu'il y a à peu près entre 10 et 20 000 personnes, 20 000 habitants, c'est très grand là-bas. Et j'y ai grandi au rythme des chants, de l'appel à la prière, du Coran qui était diffusé dans les, à travers les micros de la grande mosquée, mais également dans les petites ruelles de cette ville où je me suis baladé, où j'ai pu courir un peu. Je vous avouerai que j'ai pas beaucoup joué. J'ai joué aux billes, mais c'est surtout parce que j'avais pas le droit de beaucoup jouer.
Vous aviez beaucoup d'interdits, vous diriez?
Pas beaucoup d'interdits, c'est que j'avais un grand frère qui a toujours voulu que je travaille à l'école et que je travaille également dans les sciences religieuses, et qui du coup m'a initié très tôt à la lecture du Coran à travers des cassettes qu'il commandait, je ne sais où, de grands lecteurs du Coran d'Égypte, comme qui il fallait que je lise, et j'étais en fonction de cela récompensé.
Donc un quotidien absolument régi, organisé autour de la religion. À quoi ressemblait vraiment une journée type pour vous, enfant? Heure vous vous leviez? Quel était votre emploi du temps exactement?
Alors, je
crois pas que c'était l'emploi du temps de tous les enfants du monde.
Je ne sais pas. Franchement, à l'époque, je ne me disais pas que j'avais un emploi du temps particulier. Par contre, à partir de l'âge de 10-11 ans, là oui, là je pense que ce que je faisais, c'est peut-être pas tout le monde qui le faisait, parce que mon grand frère justement me réveillait à 2-3 heures du matin pour marcher un peu, aller voir, peut-être qu'on devait faire 2 kilomètres ou 3 dans le noir pour aller apprendre la grammaire auprès d'un de mes maîtres en grammaire classique arabe. Ça a duré 7 ans comme ça.
Pourquoi la nuit ?
Pourquoi la nuit ? Eh bien, depuis tout petit, il y a un poème arabe qui nous disait « Yassour al-bahr man talab al-ali » celui qui cherche des perles doit apprendre à s'immerger dans la mer. « Man talab al-ula sahra al-layali » et celui qui vise haut doit apprendre à veiller la nuit. « Taroum al-wasla thumma tanam al-laylan » tu veux réussir tout en dormant la nuit. C'est que tu te convaincs à voir l'impossible. Donc ça, c'est quelque chose qui s'était bien enraciné à moi depuis petit. Je vous avouerai qu'au départ, c'était difficile. Et surtout aussi parce qu'il y avait des anecdotes de mon papa qui, quand il faisait ses cours de théologie, devait se réveiller à 1 ou 2 heures du matin pour partir dans la capitale dans le noir, parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque, en tout cas pas partout, pour, à la lumière d'un lampadaire, eh bien, lire un livre qu'il avait commencé à lire et qui n'a pas pu finir parce que il n'avait plus de pétrole, le pétrole longtemps.
Les lampes à pétrole, oui.
Exactement, donc c'était des anecdotes qu'on me racontait matin, midi et soir, et qui, si je puis dire, se sont installées à moi. Et puis la deuxième raison, c'est que le prof, mon oncle, Cheikh Abou Bakr, était aussi quelqu'un de très très pieux, et qui a voulu que ce soit aussi l'heure à laquelle nous allions apprendre.
Pourquoi votre père, donc un homme religieux respecté, a-t-il connu des supplices de la part du régime en place à un moment donné ?
Alors, pas tous les régimes, enfin, 2 régimes essentiellement. Le premier, c'est le régime révolutionnaire qui a pris le pouvoir en 75, le régime d'Ali Soli, et qui était contre, entre guillemets, le système établi, ce qu'on pourrait appeler la notablocratie. Et puis, il y avait les religieux. Mon père était religieux, son maître était en opposition avec ce pouvoir-là, et mon père en a fait les frais, notamment par des comités qui géraient les villes, et il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup...
En prison ?
Je pense qu'il a dû y aller 1 ou 2 fois, un grand maximum, je crois. Enfin, je suis pas très sûr, parce que c'est des choses qui se sont passées avant que je naisse, mais il y a une maison qu'il a lui-même construite par ses mains, et qui a été réquisitionnée par le comité de la ville, et c'est dedans qu'il se faisait taper par des jeunes, qu'il se faisait punir, supplicié et châtié par ce régime. Donc, il en a gardé des séquelles qui d'ailleurs m'ont marqué, parce qu'il avait des problèmes de dos très graves à cause de ça.
Mais vous en avez été conscient peut-être a posteriori, en tout cas dans ces Comores des années 80-90, où vous étiez très concentré sur les textes sacrés, sur le livre révélé, sur les psalmodies, vous psalmodiez très tôt, hein, et votre voix d'ailleurs est enregistrée sur la radio nationale. Vous aviez dans ce décor-là une petite fenêtre sur l'extérieur, avec la radio, en l'occurrence RFI, collée à l'oreille.
Mémoire d'un continent. Elikia Mbokolo.
En 1917, on pouvait entendre les gens lire, les journaux écrire. Ils vont arriver, ils arrivent, ils sont arrivés. Et les gens dont on parlait comme ça, c'était les Américains. Mais 3 ans auparavant, on aurait pu dire exactement la même chose des Africains. Ces Africains qu'on va appeler la Force Noire, d'après le titre d'un livre très célèbre que leur a consacré le lieutenant-colonel Mangin, et qui vont représenter un appoint de force tout à fait essentiel pour l'armée française engagée dans cette guerre qu'elle voulait depuis longtemps contre l'ennemi héréditaire allemand.
Alors, entendre la voix de notre Elikia Mbokolo, historien, producteur depuis toujours de Mémoire d'un continent, ça vous ramène dans les Comores de votre enfance, Mohamed.
Oui, notamment à partir des années 90, parce que moi je connaissais pas la radio avant 84. Et quand mon papa est rentré de la Mecque en 84, je me rappelle qu'il a ramené une radio Panasonic, une radio cassette, c'était quelque chose.
Mais est-ce que écouter, raconter l'histoire du continent, même quand on est un petit enfant comme ça, est-ce que ça vous a ouvert les yeux sur l'histoire de votre archipel, ancienne colonie française ? Est-ce que ça vous a
oui.
mis
oui.
à, le pied à l'étrier de ce qu'on pourrait appeler l'information internationale.
Disons que ça m'a permis de connaître le monde, et en connaissant le monde, on se connaît. Je me rappelle quand je suis arrivé en CM2, je connaissais toutes les capitales du monde par cœur.
Ah oui.
Parce que j'avais pris un carnet que mon père m'avait fait, et je marquais à travers les informations, je marquais les villes. Je me rappelle encore la première information que j'ai entendue, ça parlait du Front Polisario au Maroc et la République Sahraouie.
Vous aviez déjà une petite intention de quitter le bateau. En tout cas, un beau jour, vous êtes passé d'un village à l'autre.
V comme village gaulois.
Vous arrivez, Mohamed Bajrafil, en 99 en France pour poursuivre vos études. Quelle impression vous fait ce petit village gaulois en arrivant?
À vrai dire, je connaissais Paris à travers les livres, à travers Notre-Dame de Paris, à travers... En gros, j'étais pas très très dépaysé. Alors par contre, prendre le métro et les transports en commun, c'était autre chose, parce que
vous avez rencontré peu d'Esmeralda et de Quasimodo.
Oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça a été aussi quelque chose de très fort qu'a vécu le personnage de Cheikh Hamidou Kane, l'aventure ambiguë, très très bon roman aussi, où finalement on a cet homme qui est tiraillé entre deux civilisations, deux cultures. Mais disons que j'ai pas eu du mal quand même à m'insérer. C'est plutôt à l'université que j'ai eu du mal. Parce que je distinguais pas, les blancs étaient tous blancs et j'avais du mal à savoir qui était qui.
Comme quoi, c'est la maladie humaine. Hein.
Oui.
Vous aviez un avantage, évidemment, celui de la langue, puisque comme tout Comorien, vous êtes polyglotte. Mais est-ce que vous avez souvenance de quelque chose qui aurait pu vous surprendre quand même, positivement ou négativement, dans les codes, dans la manière peut-être dont la France ou les Français accordent peu de place à la religion? Est-ce que ça, par exemple, ça vous choquait?
Disons que j'ai pas eu le temps d'être choqué, parce que quand je suis arrivé, la ville où je suis arrivé, il y avait une petite mosquée. Avec le recul, je me dis, c'est ce qui peut-être m'a permis de ne pas être trop déboussolé.
2 ans après votre arrivée, il y a les attentats du 11 septembre, puis des questions de société autour du voile, le débat sur l'identité nationale. Et sur la question du foulard, qui a beaucoup agité notre France, qu'est-ce que vous leur disiez à ces jeunes qui étaient un petit peu sans doute vindicatifs et radicaux?
Non, pas tant que
pas,
ça, finalement.
Pas
alors, autant on estimait que c'était une loi de stigmatisation, parce que, encore une fois, j'ai du mal à comprendre, même aujourd'hui, en 2015, que pour un fichu, on fasse une loi. La femme qui a envie de mettre un fichu sur la tête, qu'on lui foute la paix, passez-moi l'expression, et celle qui n'en a pas envie, qu'on lui foute la paix aussi. De mon point de vue, cela relevait davantage d'un problème d'éducation qu'autre chose. Je ne voyais pas l'intérêt de faire une loi. En revanche, je leur disais qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas de comparaison possible entre le fait de devoir aller à l'école et apprendre et le fait de porter un foulard sur la tête. En termes de priorité, aller à l'école est indiscutablement beaucoup plus important. Il y a un poème de Ahmed Chaouqi qui disait « Allimouha in aradtum ulaha ». Apprenez-lui, enseignez-la si vous voulez qu'elle s'élève. Donc c'est quelque chose qui était très rapidement réglé de mon point de vue.
Mais vous arrivez à dire que, par exemple, les critères d'érotisme d'une société à l'autre, ou d'une culture à l'autre, peuvent être aussi très différents. Se découvrir les cheveux dans une société n'a pas le même sens que dans une autre. Donc il faut en tenir compte, et ça m'a fait penser à un proverbe mongol, on peut aussi se référer à d'autres cultures, qui dit « Qui boit l'eau d'une terre étrangère doit en suivre les coutumes ». Tu es d'accord avec ce proverbe?
Oui, sans se rogner. Il y a un proverbe d'ailleurs comorien qui dit Zamoulamoula tizamounoumounou.
On est un peu obligé de connaître l'arabe si on veut vraiment converser avec vous.
Non, mais c'est pas de l'arabe pour le coup, c'est du comorien. Ce qui veut dire en fait que ce qui est de là-bas n'est pas forcément d'ici. En fait, de mon point de vue, je pense que l'homme, par définition, a une identité qui est toujours évolutive et qui, qu'en rencontrant les autres, on doit apprendre justement à vivre avec eux, enfin avec cette fameuse phrase « à Rome fait comme les Romains », sans pour autant se rogner. Et je peux vous dire une chose là-dessus, c'est que moi qui ai grandi avec ces jeunes, je me suis rendu compte que c'était des Français, mais purs.
Oui.
C'est-à-dire que on est en train de fantasmer sur autre
chose. Qu'est-ce que ça veut dire des Français purs dans leur cas?
Des Français purs, c'est-à-dire que l'humour est français, le réflexe est français, ils parlent le français, l'arabe ils le parlent pas. J'en avais un en particulier qui disait moi je suis musulman mais j'ai pas envie d'apprendre l'arabe et je me suis dit mais c'est ton droit. Et du coup je me disais mais c'est pas bon ce qu'on fait parce qu'on est en train de chercher à faire d'eux ce qu'ils ne sont pas. Quand ils partent au bled, ils sont au bled, mais c'est pas leur bled. C'est le bled de leurs parents, pas le leur. Et très rapidement, ils sont agacés par ce qui s'y passe et ils rêvent d'une chose, c'est de retourner chez eux.
On est d'accord. La musique est-elle halal, licite, sans doute, hein, puisque pour vous, notre invité, pour vous, imam Mohamed Bajrafil, la musique fait partie de cet ensol majeur. Alors la question sera autre dans un premier temps. Qui est Hila Ali?
Alors Hila Ali, c'est mon maître en CMA.
Vous avez plein de maîtres, hein?
Oui, j'en ai beaucoup.
En fait, c'est ça le secret, hein?
Oui, j'en ai beaucoup et je pense que, enfin, je leur dois à chacun quelque chose en particulier. Et au fond, c'est même coranique lorsqu'on nous apprend que le roi Salomon a appris d'un oiseau. Qui lui a donné des informations par rapport à la reine de Saba. Donc, au fond, on apprend partout et de tout. Et c'est une phrase de Gide qui disait que le sage est celui qui s'étonne de tout. Donc, il faut apprendre un peu de partout. Donc, Hila Ali était mon maître en CMA et qui était aussi un homme à tout faire. En fait, il était boxeur international, entraîneur de boxe. Et il était aussi chanteur, un très très bon chanteur.
On se sent très limité, hein, tout de suite.
Et il a une voix incroyablement belle.
Ila Ali en sol majeur et de passage dans la vie comorienne. Ila Ali. Vous voyez, je mets des H où il ne faut pas. Ah, Ila Ali en sol majeur et de passage dans la vie comorienne de Mohamed Bajrafi, l'imam et docteur en linguistique. Ça peut aider. On en parle dans 3 minutes.
Long way from home.
En sol majeur.
Il y a peu, je ne connaissais pas Mohamed Bajrafi, le foulard, la barbe, le jeûne, le halal, le pas halal. Ce jeune imam d'Ivry-sur-Seine, né aux Comores, en parle cash aux jeunes de banlieue et en se référant toujours au texte. En publiant Islam de France l'an 1, j'ai la douce impression qu'il s'adresse autant aux islamistes qu'aux islamophobes et qu'il se sert plutôt pas mal de sa casquette de docteur en linguistique pour expliquer le Coran au nul. Alors je ne sais pas ce que ça vaut, mais ce que je peux vous confier, c'est que cet imam m'a fait une première impression positive, car je vais vous faire une confidence, il m'a dit un poème d'amour au téléphone, et il a même ramené sa chambre dans notre studio, c'est-à-dire votre ordinateur. J'invente rien.
Non.
Rapprochez-vous du micro. Voilà. Poème d'amour, c'était dans un cadre purement en sol majeur et professionnel.
Oui. Rassurant les auditeurs qui pensent que... Et surtout ma femme, oui.
Merci pour elle.
Prima di mangiare, benedice il cibo.
Est-ce qu'avant de manger, vous bénissez la nourriture?
Oui, avant de manger, on bénit la nourriture. On demande à Dieu de nous accorder la baraka dans ce qu'il nous a donné et qu'il nous épargne la punition de l'enfer. Oui, donc on bénit la nourriture. Oui.
Aujourd'hui que vous ne vivez plus dans la forêt comme vous le faisiez dans votre enfance aux Comores, faut écouter la première partie pour comprendre. Aujourd'hui que vous vivez dans un 21e siècle qui a des côtés virtuels et des côtés explosifs, qu'est-ce que vous vous fixez, vous, comme défi en tant que croyant ?
En tant que croyant, le principal défi est celui de réussir à concilier foi et vie au quotidien. Et c'est quelque chose qui, au fond... au-delà même du croyant, est posé à l'homme.
Mais vous allez plus loin que ça. Vous êtes aujourd'hui imam, vous êtes une personnalité publique qui commençait à avoir pignon sur rue, comme on dit, et vous publiez un livre avec un sous-titre qui interpelle. Il est temps d'entrer dans le 21e siècle. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut, d'un côté comme de l'autre, que nous comprenions que le monde a changé et qu'autrefois, les mondes étaient séparés les uns des autres. Et qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, quand au 21e siècle, on ne comprend par exemple pas qu'on est musulman et français et européen, et qu'on continue à vouloir que le CD ou la disquette des croisades soit celle qui aujourd'hui nous gouverne, il y a un problème. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on continue à dire la France n'est pas musulmane, ça c'est des propos tenus par une frange non musulmane, et les autres musulmans qui vous disent qu'il faut quitter et partir, parce que la Aliyah chez les juifs existe aussi chez les musulmans sous la forme de ce qu'on appelle Hijra, il faut aller dans un pays musulman. Alors, c'est qu'en fait, on est en train d'être gouverné par des schémas qui n'ont plus cours aujourd'hui. Mmh.
Qu'est-ce qui vous autorise à penser que vous pouvez apaiser les franges extrêmes de notre société ?
Vous savez, j'ai une phrase d'Aristote, si ma mémoire est bonne, qui disait que le pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer.
Visiblement, vous êtes détenteur d'un savoir, et c'est ce qui vous autorise à penser que vous pouvez, avec ce savoir, apaiser peut-être certaines angoisses. Est-ce que votre casquette de docteur en linguistique est utile à l'imam que vous êtes ?
En toute honnêteté, je dirais non, parce que je trouve que parfois le monde est d'une violence telle que, personnellement, l'enfance qui a été la mienne, je pense qu'elle n'est pas prête à faire face à un certain nombre de choses. Donc, quelque part, c'est une carapace que je me mets. Donc, finalement, être docteur en linguistique, enfin, c'est honorifique, si vous voulez, c'est un parcours de vie, donc je ne pourrais pas non plus cracher dessus.
Mais ça vous permet de décrypter et d'interpréter les textes, et c'est bien le talon d'Achille de notre époque. Un exemple. Alors, certains musulmans disent qu'il n'y a aucun verset dans le Coran qui pousse à la violence.
Ouais.
Alors que d'autres musulmans font parler le texte sacré dans le sens contraire. Qu'est-ce que vous dites à ça ?
Je réponds par une métaphore soufie qui dit que, ça, je ne sais pas le docteur qui le dit, mais c'est plutôt l'élève et le disciple de son père et de ses maîtres qui vous le dit, c'est que, en fait, il en est du Coran comme d'une pluie. La métaphore dit, elle tombe autant dans la gueule du serpent qui en fait du venin que dans la coquille marine qui fait les perles. Donc le problème n'est pas l'eau. Le problème est plutôt l'endroit dans lequel celle-ci finit. Et au fond, on ne voit pas différemment du Coran. C'est que le Coran est un outil qui a permis à des peuples, à des siècles, de sortir, et c'est d'ailleurs ce que dit le Coran lui-même, parlant du prophète, liukhrijakum min adh-dhulumat ila an-nur, pour venir vous sortir des ténèbres, de l'ignorance, de la barbarie, aux lumières du savoir et de la vie. Donc, utiliser ce livre, en faire un couteau,
une arme,
c'est se servir de l'eau pour faire du venin. Mais est-ce que c'est à l'eau que l'on doit en vouloir parce que le serpent en a fait du venin? Je ne pense pas.
À Ivry-sur-Seine et puis dans d'autres coins de banlieue, en tout cas, vous passez beaucoup de temps à recadrer certains prédicateurs du web. Et il paraît qu'il y a certains étudiants qui vous filment dans vos prédications. Donc voilà comment vous répondez à une brochette de musulmans pratiquants qui se demandent si la musique est licite ou pas dans l'islam.
Sérieusement, vous vous rendez pas compte des bêtises que vous proférez? C'est quoi le lien entre le qardaoui et la musique? Dites-le-moi, il est où le lien? Mais toi, ta vie, elle est où? Elle était où? Toi, t'étais où là, il y a 2 ans, même pas, hier, t'étais où? Avant de te mettre avec ta petite barbichette, t'étais où, toi? Donc tu viens, tu insultes aux 90 ans, tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste? Et que ta vie, elle va se terminer comme ça, comme si de rien n'était? Des gens qui passent toute leur vie à travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala, toi, tu viens, tu les insultes. Mais c'est la preuve que tu n'as rien à voir avec l'islam. Parce que celui qui a quelque chose avec l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Mais toi, tu viens, tu demandes ghillan lil ladhina amanu. Oh toi, Dieu, donne-moi de la haine contre l'autre.
Je me demande si vos élèves comprennent absolument tous les hadiths, tous les versets en arabe que vous pouvez dire, Mohamed.
Oui, parce que j'essaye de tout le temps traduire automatiquement.
Alors, sur la musique?
Alors, sur la musique, oui. Au cours d'un cours, j'ai eu un jeune qui est venu et qui m'a interpellé en disant, oui, tu es laxiste parce que tu dis que la musique est permise. Et je lui ai dit, en fait, c'est que tu ne sais peut-être pas à qui tu poses la question, parce que la musique et moi... Donc je suis pas très proche de la musique dans le sens où je vis pas avec, je suis pas né dedans.
Mais c'est pas la question. La question c'est est-ce que l'islam interdit la musique?
Avant d'arriver à la question, c'était déjà pour déblayer le terrain et lui rappeler qui il était et qui j'étais. Lui a grandi dans un milieu où il y avait de la musique matin, midi et soir, et qu'il vienne, comme par magie, cracher sur celle-ci parce qu'il se serait découvert une religiosité
soudaine. C'est ça que vous soulignez.
Exactement.
Hein.
C'est, en fait, l'idée, c'est pas tant de leur en vouloir s'ils veulent pas écouter de la musique. Ils sont libres de ne pas le faire. Mais ce que je dénonçais, c'est justement le fait de devenir vindicatif à l'endroit de celui qui, pour qui la musique n'est pas interdite. Et là, je réponds à votre question. Il y a 2 avis sur la question. Il y a un avis qui considère que c'est interdit. Un autre avis de savants très respectueux qui considère qu'elle ne l'est pas et qu'elle est halal. Du coup, qu'elle est permise. À part, bien entendu, les grossièretés. Les grossièretés ne sont pas interdites exclusivement dans la musique. Même en dehors, il est interdit d'insulter quiconque. Donc, moi, c'est surtout là-dessus le premier point que je voulais mettre en exergue. C'est de dire aux gens, mais rappelez-vous ce que vous avez été avant de vous mettre à juger les autres. Voilà.
Alors, le foulard, faut relire les textes. Le halal, faut comprendre les textes. Et la liberté d'expression. Ça, c'est aussi une grande question. J'aimerais partager avec vous un extrait délicat d'un film qui vient de sortir, celui de Nabil Ayouch, Much Loved, qui met en scène 4 femmes qui vivent d'amour tarifé à Marrakech. Ça s'appelle Des prostituées. Et ces 4 femmes rêvent d'une société où on les considérerait justement comme des dames. Langage cru, alors attention, bande-annonce. On y voit dans une voiture une nana, si vous me permettez l'expression, en train de se maquiller et dire « Ce soir, sortez-moi le grand jeu, montrez-moi bien vos gambettes, vos lèvres, vos culs. » Et puis au chauffeur de rajouter « Qu'est-ce que tu regardes ? Tu veux qu'une pute parle en prose ?»
Tu vois quoi?
Un avion.
Il va où cet avion?
Vers une île lointaine. On sera des femmes respectables. Et les hommes nous traiteront comme des dames.
Je vous avais prévenu, hein, Mohamed, c'est cru. C'est un film d'ailleurs qui a été interdit au royaume chérifien. Il fait polémique ici en France. Vous, imam, si vos ouailles vous viennent vous voir en disant il faut absolument interdire ce film, il est grossier, on y voit des prostituées, c'est haram, qu'est-ce que vous dites?
Alors, moi, j'ai une réaction qui peut-être va vous étonner. Je pense que la meilleure réponse à donner à une œuvre telle qu'elle soit, c'est l'ignorance totale, en fait. C'est de ne pas en tenir compte. Et au fond, c'est ce que...
C'est votre attitude aussi sur la liberté d'expression,
oui,
hein, que j'interroge, là.
C'est pour ça que, d'ailleurs, Dieu dit dans le Coran, hein, « Wa'arid anil jahilin », tourne le dos aux ignorants. Par exemple, Charlie Hebdo, avec les caricatures. La meilleure réponse, de mon point de vue, elle est dans le Coran. Mais le Coran nous apprend que le prophète a été traité de tous les noms. Il y a plus de 20 versets dans lesquels on apprend qu'il a été traité de fou, de sorcier, de magicien, de... Finalement, on s'aperçoit que le prophète a été, mais vilipendé. Et jamais il n'a appelé à tuer quelqu'un pour une raison ou pour une autre.
Donc la question à vous, croyants, qui vivez en Europe, finalement, vous diriez que vous êtes plus choqués par quoi? Par Daesh ou par les caricatures de Mahomet?
Plutôt par Daesh. Et c'est peut-être bien que vous vous posiez cette question de cette façon. Tout le monde sait, ou peut-être nos auditeurs ne le savaient pas, Charlie Hebdo allait fermer boutique. Parce que son chiffre d'affaires...
C'est pas ce qui est en cause,
non,
encore une fois.
Non,
hein? Ce qui est en cause, c'est une fois de plus la liberté d'expression.
Non, mais justement.
C'est le fait qu'une culture puisse se développer, avoir différentes formes, qu'elle puisse choquer. Mais il y a des tribunaux pour effectivement porter plainte si jamais on se sent diffamé.
C'est pour cette raison que je vous dis que, en fait, si les gens avaient compris que, in fine, bien qu'ils aient enlevé la vie à des innocents, les Kouachi ont donné vie à Charlie Hebdo. Au fond, ce contre quoi ils ont voulu lutter, ben finalement, ils ont perdu. Il y a des tribunaux, on est dans un pays de droit, des associations se sont levées, ont porté plainte, parce qu'elles estimaient que, et je m'inscris dans cette façon de voir les choses, que le prophète avait été caricaturé. Mais ça s'arrête là. La loi te donne raison? Ok, ça s'arrête. Elle te donne tort? On s'arrête là.
Je suis étonnée que vous ne défendiez pas davantage la culture, car vous êtes vous-même un amoureux de la culture. Vous citez Rousseau, vous citez Einstein.
Vous allez être étonnée, en fait, dans le sens où, personnellement, je vous dis, je ne suis pas du tout fan de cette façon de voir les choses, mais je me battrai pour que ça existe. Dans quel sens? Dans le sens où, vous savez, il y a le même chef, il disait justement que mieux vaut avoir un ennemi savant qu'un ami idiot.
Merci pour ce bon mot. L'écriture de poèmes, ça vous est nécessaire apparemment?
Oui, depuis mon jeune âge en fait.
Depuis la forêt des Comores?
La forêt, alors c'était pas tout le temps la forêt, mais et j'y allais pas tout le temps, mais oui, j'ai commencé à écrire de la poésie depuis très jeune, peut-être à l'âge de 8-9 ans, et puis j'ai continué.
Vous nous avez apporté un sonnet sur l'indifférence.
Oui. Oui, en fait, c'est un sonnet que j'ai écrit au lendemain des images ou de l'image ô combien choquante du jeune Aylan que la mère finalement a régurgité. Parce que j'ai perdu un enfant qui était à peu près à cet âge-là. Et ça m'a pas permis de dormir, en fait. Ça m'a vraiment perturbé mes nuits et je me suis retrouvé à écrire.
Vous êtes dans votre chambre, les yeux sur l'ordinateur.
Oui. Alors, l'indifférence tue en Syrie et dans le monde, c'est le titre. Un enfant est mort, noyé dans et par l'océan, de l'indifférence d'une planète pourtant amo. L'arme tue, mais l'indifférence est bourreau de quiconque part à petit feu dans le néant. Sommes-nous dignes d'indignation maintenant, nous pour qui cette tragédie est si rien ? qu'au lieu du logis, nous avons proposé le caveau au peuple syrien jadis fier et clairvoyant. Le trépas le guette dedans comme dehors. Un enfant est mort, notre humanité aussi.
C'est comme couffin culturel.
Alors, dans votre couffin de Comorien et de fils adoptif du drapeau multicolore, c'est comme ça que vous vous définissez, Mohamed Bajrafil, est-ce qu'il y a une vraie place pour ce concept de francité ?
Oui, je pense que la France, c'est beaucoup de choses, dont des valeurs qui sont universellement partagées. Liberté, égalité et fraternité sont des valeurs qui vont au-delà de la France et que partout dans le monde, tout le monde cherche à avoir, tout le monde aspire à cela. Or, l'impression que parfois on a, c'est que les luttes qui ont jadis pu être menées pour arriver, par exemple, aux 5 semaines de congé, les acquis sociaux, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, c'est des acquis définitivement. On oublie qu'à côté, il y a des gens qui travaillent pour 100 euros le mois et qui font des heures pas possibles, un peu comme au 19e siècle. Faut lire Zola, La fortune des Rougon-Macquart et Les Misérables, etc. pour voir dans quelles conditions les gens travaillaient, les enfants aussi travaillaient.
Vous représentez cette France, vous, du 21e siècle. Avec votre métissage. Vous avez cette sensation-là, vous, ou pas ?
Non, moi je voudrais plutôt représenter le monde.
Dans le gourmand, sens
où, oui. C'est que quand je dis représenter le monde, c'est pas dans l'idée d'être le représentant de ce monde, mais au contraire être comme tout le monde, dans le sens où je me définis comme quelqu'un qui, en se levant, il se réveille constitué des beautés littéraires, des lumières, de Gibran Khalil Gibran, de Léopold Sédar Senghor, d'Hemingway, de Faulkner. En fait, être un millefeuille, comme on a eu à le dire, ou plutôt un sandwich, comme on a eu à le dire dans le livre. Et au fond, je pense que tout le monde est un peu comme ça, mais on refuse de le voir.
Vous aimez Rimbaud? Vous aimez le Rimbaud arabe,
oui.
Peut-être en la personne d'Abou Nouas, poète irakien, on le rappelle, oui. Qui célébrait le vin et l'amour des jeunes garçons.
Oui.
Dans son poème « L'amour imberbe », il écrit par exemple « Je regarde Hamdan et dis à mon ami « Cela fait bien longtemps qu'il me l'avait promis de ne laisser pousser sa barbe qu'à condition de laisser glabre son entrecuisse ». Vous étiez un peu plus fun, je dirais, les musulmans d'antan.
Le cas de Abou Nawas, c'est vraiment un extrême, c'est vous montrer à quel point moi
franchement,
je ne suis pas.
Il y a eu l'islam des Lumières aussi.
Oui, mais enfin, en tout cas, les Lumières de l'islam, c'était pas que Abou Nawas, en tout cas dans cette version-là de pédéraste. Mais moi, ce que je retiens de lui, c'est le poète qu'il a été, alors qu'il a fait l'objet de beaucoup d'emprisonnement pour des raisons politiques, mais aussi pour ce qu'il était. Hein.
Vous prenez ce qui vous arrange finalement. Hein. Vous faites votre marché, si j'ose dire.
Mais je pense que, en tout cas, c'est quelque chose de coranique. Dans
de
le sens où dans le Coran, que de prendre la vérité là où on estime qu'elle existe. Et c'est personnellement quelque chose que j'essaye au quotidien de transmettre aussi bien à mes enfants qu'à mes élèves. C'est que apprendre à connaître la vérité pour ce qu'elle est, à connaître les gens par la vérité et non connaître la vérité par les gens, parce qu'on devient quelqu'un de sectaire. On refuse d'autres.
Justement, vous ne voulez pas de ça.
Justement.
Voilà. Donc un Abou Nouas qui peut s'avancer comme poète et comme homosexuel, pourquoi pas. La France avec ses idéaux de 1789 et son mariage pour tous, est-ce que vous l'apprenez dans sa globalité? Le mariage pour tous, c'est quelque chose qui vous choque?
Bien entendu, mais encore une fois, étant donné qu'il y a des lois, et que ces lois-là exigent que des personnes de même sexe puissent se marier, je ne me renierai pas en disant que pour moi, c'est pas bien, ça ne devrait pas se faire. Mais étant donné que la loi le veut, je m'y soumets. Abou Nouas a eu une double vie, mais il a été également celui qui a, à la fin de sa vie, a dit « Rabbi in'azama dhunubi kathratan, si j'ai fait beaucoup de péchés, Seigneur, falakad alimtu bi anna afwaka a'zam, ou c'est que je sais que ton pardon est sans limite ». Donc finalement, on voit que à condamner les gens, on finit par les perdre définitivement. Il faut toujours laisser une fenêtre ouverte, une porte de sortie.
votre premier port d'attache.
Mohamed Majrafil.
Alors, mon premier port d'attache, c'est bien entendu les Comores, que j'ai quitté en pleurant, parce que c'était la première fois que je montais dans un avion. Et je voyais l'avion, à mesure qu'il s'éloignait des côtes comoriennes, les lumières s'éteignaient. Et j'ai pleuré, j'ai en tête encore les larmes qui étaient les miennes, mais également de celles de mes amis que je quittais pour la première fois.
Et comment vous expliquez que ce lien perdure avec cette terre, ce village d'origine? Est-ce que ça, c'est propre à chaque Comorien, ou est-ce que c'est un lien intime que vous entretenez avec cette terre?
C'est propre à chaque Comorien. Sans doute parce qu'on vit en communauté, dans les strates coutumières. Il y en a une en particulier qui s'appelle l'enfant du village. C'est un proverbe qui dit que l'enfant n'appartient pas qu'à une personne, n'appartient pas qu'à ses parents. L'enfant appartient à tout le monde. Donc la réussite d'un enfant, d'une ville donnée, c'est la réussite de la ville.
Donc l'individu passe après le groupe?
Non, disons que l'individu se réalise dans et à travers le groupe. Et il n'est rien sans le groupe.
Ce qui est assez joli, et je trouve que vous avez l'air de faire la synthèse de tout ça, c'est que par tradition, vous réchauffez sans doute auprès de la communauté comorienne, ici à Paris, ou en tout cas en banlieue, je l'imagine. Mais vous terminez votre livre par un vrai chant d'amour pour la France.
Oui, un chant d'amour, parce que c'est surtout dans la peau du jeune qui est né ici que je me mets, en pensant à ce que le prophète a dit quand il a été chassé de la Mecque.
Le prophète vous aide à aimer la France.
Oui. Et je voudrais qu'il aide les jeunes à aimer la France. Parce que la Mecque, dans laquelle il est né, et dans laquelle il a grandi, et dans laquelle il va recevoir la prophétie, il va en être chassé parce que des gens voulaient le tuer. Et une fois à l'extérieur de ses frontières, de la Mecque, il parle à la Mecque en disant « Mais oh toi, mec, sache que tu es l'endroit que j'aime le plus au monde. Et n'eût été le fait que les tiens m'ont chassé de toi, jamais je ne t'aurais quitté. » Alors je m'adresse à la France en lui disant ceci. « J'ai foi en toi, en tes forces vives, qui sont tes enfants, tous tes enfants, sans distinction de religion, d'origine ou de couleur. Ton drapeau est tricolore, tes enfants multicolores. C'est cela ta beauté, c'est cela ta force. Ne t'en détourne jamais. Tu sombrerais. »
Vous avez écrit ça sous emprise?
Non, à 2h du matin, pareil. J'aime bien écrire les nuits.
Merci Mohamed Bajrafil. Je rappelle que vous publiez Islam de France, l'an 1. Il est temps d'entrer au 21e siècle. C'est aux éditions Plein Jour. Et puis on va refermer les volets avec une chanson de Lokua Kanza, Shadow Dancer. Vous avez un petit côté romantique, hein, finalement.
Ouais, certainement, oui. Comme j'écoutais rarement des chansons, d'abord parce qu'il n'y avait pas la radio tout le temps, et ensuite parce que j'étais souvent dans mes bouquins et dans le Coran. Enfin, d'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure une récitation que j'avais le devoir d'imiter quand j'étais jeune, de Abdul Basit, en récitant Wadduha. Donc c'était plus ça, mon monde, que la chanson. Mais il y avait des fois des chants qui vraiment résonnaient au plus profond de moi-même, et dont celle-là, Shadow Dance de Lokua Kanza, que j'ai dû entendre il y a peut-être 18 ans.
Angel of the night, come into my life, answer every prayer and stay. Can't you hear my heart crying out for love, closer than a moment away? Now I know that paradise is here. Can I reach out and touch the rainbow before you disappear? Shadow dancer, let me dance with you. Shadow dancer, I'm my own, yeah, yeah. Shadow dancer, are you lonely too? Shadow dancer, angel of my dreams, shed my destiny. Fill this empty darkness with light. Take this stranger's hand out across the floor. Let me share your world tonight. Now I know I'll never feel the same. You were found the deepest ocean I may not see again.
Shadow dancer, let me dance with you. Shadow dancer,
majeur podcastable et discutable sur notre Facebook en sol majeur, raconté chaque samedi et chaque dimanche à 13h10 temps universel avec Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. À la semaine prochaine.